le grand objectif que nous avons déjà ce matin considéré, à savoir la vie véritable, la vie éternelle. Enfin, il y a tout de même sur cette terre quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr, nous connaissons les activités des hommes. Elles sont prodigieuses. L'électronique, l'informatique, par exemple, qui a permis le développement des grandes industries et des grandes machines, les machines volantes, notamment, c'est bien quelque chose de fantastique. Moi qui suis plus très jeune, j'ai un peu d'âge, si on m'avait parlé de cela il y a 50 ou 60 ans, car j'étais déjà grand à ce moment-là, eh bien, si on m'avait parlé de ce qu'on voit maintenant, j'aurais dit, mais vous êtes des rêveurs, c'est de la fiction tout ça. On n'y aurait pas cru, je vous assure, on n'aurait pas cru du tout à ce que nous voyons aujourd'hui. On peut donc dire que, véritablement, la Terre s'est couverte de choses prodigieuses, réalisations prodigieuses. Mais ce qui est bien plus prodigieux, c'est la vie éternelle, car les machines, les ensembles industriels et les prouesses de nos mathématiciens ou de nos physiciens, cela ne nous procure pas la vie, cela ne nous sauve pas. Or, là, la Bible, qui est la parole de Dieu, qui n'a jamais été démentie tout au long d'un passé qu'elle avait déjà annoncé à l'avance, les prophéties se sont réalisées, donc la Bible, déjà, à ce point de vue, est parfaitement crédible. Elle est crédible, doublement crédible, parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a inspirée à des hommes, et parce qu'elle a fait ses preuves. Elle a fait ses preuves. Eh bien, la Bible nous dit, oui, le Seigneur Jésus est venu sur la terre, pour quoi faire ? Pour créer une religion ? Non. Il est venu donner la vie éternelle. Voilà. Il n'est pas venu pour juger, il n'est pas venu pour perdre, il est venu pour donner la vie éternelle. C'est lui-même qui l'a dit, n'est-ce pas ? Par conséquent, il vient pour ça. Il est envoyé de Dieu pour manifester d'une façon éclatante et suprême, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est cela. On l'a quelquefois contesté, parce qu'on aurait voulu que Dieu intervienne dans les misères humaines. Et il ne peut pas intervenir, parce que, alors, s'il intervenait pour supprimer les conséquences des inconséquences humaines, que ferait-il ? Il sanctionnerait le mal par le bien. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas ? Il attacherait au péché, au mal, des suites heureuses. Vous voyez que c'est impossible, est impossible cela. Par conséquent, l'amour de Dieu s'est manifesté d'une façon éclatante, grandiose et unique, le don de la vie éternelle. L'homme a été créé pour vivre. Dieu n'a jamais créé pour la mort. La mort, elle est venue. C'est une intruse. Elle est venue dans ce monde en raison de ce que l'homme, précisément, a tourné le dos à Dieu et qu'il a adopté une parole, de la parole a un grand rôle, une parole autre, différente, de celle de Dieu et contraire à celle de Dieu. Donc, le Seigneur, le Christ, est venu dans le monde de la terre pour donner la vie éternelle. Alors, nous allons lire tout de suite quelques textes. Nous allons lire dans Jean, et Évangile de Jean, chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et bien entendu, la vie véritable, j'aime bien lui donner ce qualificatif, la vie véritable, la vie impérissable. La vie véritable de Dieu, c'est cela. Voilà donc quelque chose de tout à fait catégorique. Je voudrais aussi, dans le même passage, dans le même chapitre, lire encore deux versets, les versets 39 et 40. « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » Cela a été dit aux Juifs. « Vous pensez avoir dans les Écritures la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Vous ne voulez pas venir à moi, pour avoir la vie. Vous ne voulez pas. C'était quelque chose que Jésus, on pourrait presque dire, ne comprenait pas, ne pouvait pas accepter. De même qu'il n'a jamais accepté la mort. Vous savez que Jésus n'a jamais accepté la mort. Personne n'est mort en sa présence. Il s'est trouvé trois fois devant des morts, et trois fois ces morts ont été ressuscités. La mort ne résiste pas devant le Seigneur Jésus. Et alors, il s'étonnait de cela. Comment ? Je vous apporte la vie éternelle, et vous ne voulez pas venir à moi pour l'avoir. On pourrait presque dire, il suffit de cela. Il suffit de venir à moi. Nous allons éclairer tout à l'heure cette injonction du Seigneur Jésus. Vous ne voulez pas cela. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas de la vie éternelle ? Vous voyez comme l'homme vraiment est attaché au mensonge, car tout ce qui nie la vérité révélée, la parole de Dieu, est évidemment mensonge. Et nous savons, Jésus l'a dit, que le mensonge vient du diable, père meurtrier et père du mensonge. Ainsi donc, Jésus était étonné, bouleversé de ce que l'on résistait à cet appel qu'il lançait aux hommes, de venir à lui. Il faut donc parler de vie éternelle, puisque tel est le but de Dieu, donner la vie éternelle. Et il faut prendre ce grand problème par le fait qu'il implique l'existence et la possibilité d'une vie éternelle et impérissable. Par conséquent, il ne s'agit pas de conception, il ne s'agit pas d'opinion philosophique, mais il s'agit de réalité. Il y a une réalité n'est pas l'incroyance, l'incrédulité, l'athéisme qui pourront porter atteinte à cette réalité, elle est là, la vie éternelle. Et il y a déjà des hommes, des femmes qui sont maintenant entrés dans la vie éternelle. Ce qui leur manque, sauf à une petite phalange d'hommes et de femmes, une petite phalange, ce qui leur manque en général à tous ceux qui maintenant ont quitté cette terre et sont dans la cité de Dieu, parce qu'ils ont été croyants, ils ont cru en Jésus-Christ, il leur manque la résurrection. Mais la résurrection, Jésus l'annonce, celui qui croit en moi, qui croit en celui que Dieu a envoyé, qui croit en son Fils, celui-là a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Plusieurs fois, Jésus a affirmé ça, je le ressusciterai. Donc la vie éternelle est une vie dont la puissance, la réalité, le principe s'obtient maintenant, mais qui va se manifester dans toute sa réalité lors de la résurrection des morts, de ceux qui seront morts dans la foi. Dieu nous assure que la vie véritable qu'il donne est donc une vie sans fin, une vie éternelle, une vie parfaite, en dehors de toutes les misères que nous connaissons dans l'existence présente. Et elle ne peut pas être différente de cela. N'est pas possible parce que Dieu est éternel et ce qu'il nous propose par son Fils, c'est sa propre vie. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu, la vie dont il est la source. Et attention, ne nous méprenons pas, la vie a une source. Nous savons que sur la terre, par la procréation, la vie se reproduit, si bien dans les espèces végétales, animales, que dans l'homme, chez l'homme, par la procréation, la vie se reproduit. Donc la vie a une source. À l'origine, par exemple pour l'espèce humaine, qu'y a-t-il eu ? Un couple. Et à ce couple, Dieu avait dit « multiplier ». Multiplier. La mission de Dieu était de multiplier. Vous allez me dire, mais est-il vrai que l'humanité soit venue, soit procédée d'un seul couple ? Eh bien, tous ceux qui, je parle des scientifiques, ont voulu trouver d'autres explications que cela, ont tout simplement perdu leur temps parce que même la science consciente, il existe tout de même une science consciente, la science consciente a reconnu que l'homme était venu d'un couple. La pluralité des origines de l'espèce humaine est une chose inventée et qui n'a pas pu être soutenu. Mais le monogénisme, c'est-à-dire l'origine unique de l'homme sur la terre, est vraiment quelque chose de scientifique. Et par conséquent, là, la science rejoint la foi. La vie que Jésus nous apporte et nous donne n'est pas une longue vie. Pour le peuple d'Israël, c'était cela. On lui promettait une longue vie. Il allait être, s'il était raisonnable, s'il obéissait aux commandements, aux ordonnances que Dieu lui avait données sur le mont Sinaï, alors il allait être rassasié de jours, selon l'expression que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Il allait donc avoir une longue vie. comme Abraham qui a vécu 180 ans, quelque chose comme ça, et puis même Noé, 600 ans. Dieu peut donner une longue vie, bien sûr, il peut très bien le donner. Actuellement, la vie humaine, si rien n'intervenait pour la limiter, la détruire, la vie humaine aurait pour longévité moyenne environ 120 ans. Mais la vie que Jésus donne n'est donc pas une prolongation de nos jours, mais une vie qui ne se perd plus et qui donc n'est atteint par aucun mal destructeur. C'est une vie que la Bible qualifie d'incorruptible, une vie incorruptible. Il faudrait que nous lisions ici un passage de la première épître de Paul aux Corinthiens. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, et je lirai au verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Ici, Paul fait allusion au moment du retour du Seigneur Jésus, qui arrêtera le cours de l'histoire et qui changera subitement le déroulement habituel des choses. Alors là, les gens qui sont sur la terre et qui seront croyants n'auront même pas à passer par la mort du corps. Voilà ce que veut dire Paul ici. Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. De tout sens, ces gens qui seront sur la terre devront être changés comme si, étant morts, ils étaient ressuscités. Ils vont retrouver, par conséquent, le corps de résurrection qu'auront les véritables ressuscités. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Les morts ressusciteront incorruptibles. Incorruptibles dans tous les sens. Et nous serons changés. Nous, c'est-à-dire nous qui serons présents, ceux qui seront présents. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Voyez-vous, voilà donc un autre corps qui sera donné, et cela par la voie d'une résurrection, un autre corps, un corps différent, qui ne sera pas fait. Quand on lit tout le passage, on acquiert vite les notions nouvelles qu'il faut considérer pour la résurrection, ce corps ne sera pas fait de la même matière. Notre corps est fait, vous savez, des atomes les plus ordinaires. Il n'y a pas d'atome sublime, supérieur pour le corps humain. Il est fait des atomes que l'on trouve dans les roches, dans la poussière, dans l'eau, n'est-ce pas ? L'hydrogène, l'oxygène, le carbone, le soufre, le phosphore, tout ça, ça se trouve dans la dehors, enfin, d'une façon souvent assez vile. Eh bien, ce sont ces mêmes atomes qui composent notre corps. Seulement, notre corps est animé par une puissance de vie qui se situe au niveau de notre âme, une puissance immatérielle. La vie, c'est cela, une puissance immatérielle. Ainsi, donc, le corps, actuellement, le corps que nous avons, est corruptible, nous le savons, les maladies, voyez, n'est-ce pas, et puis la limitation de la vie, la longévité de l'homme, en général, ne va pas très loin, au-delà de 80, 90, quelquefois près de 100 ans, mais en général, c'est là l'extrême limite. Mais le corps qui sera donné, lui, ne sera atteint par aucun mal destructeur. Et ce corps de la résurrection sera incorruptible, glorieux, plein de force et uni entièrement à l'Esprit de Dieu. Uni à l'Esprit de Dieu, ce que Adam a refusé, n'a pas su garder dans le jardin d'Éden, se fera, ce corps sera uni, seulement le péché ne pourra plus venir troubler cette union avec l'Esprit de Dieu. Et les atomes qui constitueront ce corps ne seront pas tirés de la terre. Le corps actuel est tiré de la poussière de la terre, je viens de vous le dire, les atomes les plus courants dans la matière même de notre globe, eh bien non, ces atomes auront cessé de constituer le corps humain de la résurrection. Ce seront d'autres atomes. Et là, l'apôtre Paul nous dit, mais il y a bien actuellement, à notre connaissance, des chairs de différentes sortes. Eh bien, pourquoi n'y aurait-il pas des corps de différents ? Le Seigneur, Dieu, peut avoir des atomes ailleurs que sur cette terre. Des atomes, peut-être, ayant sûrement même des propriétés différentes. C'est pour ça que le corps nouveau sera appelé un corps céleste. Il n'est plus terrestre, il sera céleste. Nous avons vu tout à l'heure que le Seigneur Jésus vient sur la terre ayant en lui la vie et la source de la vie. Le don de la vie éternelle dont il a parlé, mais dont il parle toujours, puisque la parole de Dieu est éternelle, elle ne peut jamais être caduque ni vétuste. Le don de la vie éternelle ne se réduit pas à un problème d'ordre physique, bien que la résurrection soit indispensable pour entrer dans la vie éternelle et être un habitant du royaume de Dieu. Non, la vie que le Seigneur donne ne se réduit pas à ce problème physique, mais au contraire, s'accorde à un problème d'ordre spirituel. Et c'est maintenant donc que Jésus veut nous donner cette valeur spirituelle, cette réalité spirituelle de la vie éternelle. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Celui qui vient à moi, celui qui croit en moi, celui qui contemple le Fils et croit en celui qui l'a envoyé, en Dieu, a la vie éternelle. Il a dès maintenant la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il reçoit cette puissance de vie en lui, et même Jésus, pour le croyant, quelqu'un qui est croyant et qui reste croyant, attaché à Jésus, eh bien, le Seigneur Jésus a dit, celui qui vit, c'est-à-dire qui est présent sur la terre, et qui croit en moi, ne mourra jamais. Il était devant un témoin, une femme, sœur de Lazare, et lui dit, Marthe, crois-tu cela ? Le crois-tu, cela, ne mourra jamais. Ailleurs, devant les pharisiens, le Seigneur Jésus avait dit, « Celui qui entend et garde ma parole ne mourra jamais. » Et pour Jésus, donc, la mort du corps, si elle intervient, nous avons vu tout à l'heure que les tout derniers, au moment du retour du Seigneur, ne pourront ne pas passer par la mort. Mais certes, nous pouvons envisager, nous, de passer par la mort, car nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra. Nous savons que son retour s'approche bien vite, mais nous ne pouvons pas fixer le temps, le jour et l'heure. Bon, eh bien, nous savons une chose, n'est-ce pas, c'est que quand le Seigneur reviendra, eh bien, ceux qui seront là passeront directement, eux, à l'état de corps céleste, de corps qui ne peut plus mourir, mais ceux qui passent par la mort, eux, ce qui peut être très bien notre cas, en tout cas le mien, n'est-ce pas ? Eh bien, alors, ceux-là, ils ne meurent pas. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Il ne meurt pas. La mort du corps, pour Jésus, n'est pas la mort. C'est l'entrée immédiate dans la vie éternelle. Parce que il y a la foi, cette foi dont nous parlions ce matin, qui nous unit à celui qui est le source de vie, le Seigneur Jésus. Alors, le Seigneur Jésus nous invite à venir à lui. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Venir à Jésus, c'est recevoir de lui la puissance de la vie impérissable. Et vous savez que le Seigneur Jésus a prononcé une parole magnifique. Je suis certain que beaucoup de vous la connaissent et l'ont retenue par cœur, cette belle parole. Quelle est-elle ? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, à travers moi, que par mon moyen. Je suis donc le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire, je suis le seul chemin par lequel vous pouvez être conduit à Dieu. Or, il faut que vous alliez à Dieu. Le Seigneur Jésus vient nous chercher et nous donner la vie pour que nous allions à notre Dieu. L'objectif, si vous voulez, l'objectif à ne pas perdre de vue est celui-ci, voir Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voir Dieu, être en présence de Dieu. La vie éternelle comporte cela. Et pour nous conduire à Dieu, c'est maintenant. Maintenant que Jésus nous conduit à Dieu. Jésus est le chemin pour nous conduire à Dieu. Il est la vérité. J'ai dit ce matin que sa vie, son comportement, ses paroles, ses actes, tout dans sa personne manifestait la vie. C'est ce que Jean affirme dans les 4 premiers versets de la première épître qui porte son nom. Première épître de Jean, 4 versets. Nous avons touché, nous avons entendu, nous avons vu il ne dit pas celui, il dit ce qui était la vie éternelle. Car Jésus a manifesté la vie éternelle. Il l'a vécu. Vivait que cette vie-là. Il a vécu sur la terre la vie éternelle. Il est la vérité pour nous entraîner à marcher dans la vérité. Nous avons déjà employé cette expression-là ce matin. Pour nous entraîner à marcher dans la vérité. Je suis la vérité. Il est la vie afin de l'établir en nous. Vous voyez comme son message, en somme, est concis et peut-être vu dans ce raccourci merveilleux. Je suis le chemin pour vous conduire à Dieu. Il faut que vous alliez à Dieu. Vous n'avez pas d'autre chemin. Thomas, lui, il avait demandé au Seigneur Jésus quel était le chemin. Il disait au Seigneur Jésus, bon, écoute, montre-nous le chemin. Voilà, et puis nous nous y rendrons par nous-mêmes. Et c'est là que le Seigneur Jésus lui avait dit, le chemin, non, je suis le chemin. Il faut que tu viennes à moi, tu ne peux pas indépendamment, toi, avec une connaissance qu'on te donnerait du chemin, avec une connaissance religieuse, même si elle est bonne, même si c'est la saine doctrine, tu ne peux pas t'en aller comme ça, et puis te dire, quand cela me plaira, j'irai à Dieu. j'irai moi-même à Dieu puisqu'on m'a indiqué le chemin. Non, le chemin, on ne te l'indiquera pas parce que le chemin, c'est la personne même de ton Sauveur auquel il faut que tu t'attaches. Je suis le chemin. Je suis le chemin pour vous conduire à Dieu. Je suis la vérité pour vous entraîner dans la vérité. Je suis la vie afin de vous la donner. Voilà, voilà, n'est-ce pas, le message vraiment condensé et merveilleux de Jésus-Christ. Dans ce que nous avons lu tout à l'heure, je l'ai déjà souligné, nous avons remarqué que Jésus s'étonnait que l'on soit réticent pour venir à lui. Quand il était sur la terre, on venait à lui par des marches quelquefois très longues. Des gens venaient de loin, à pied. On s'approchait de lui. On voulait même, on le serrait. On voulait le toucher. Rappelons-nous cette femme qui avait une perte de sang. Elle avait du mal à s'approcher du Seigneur. Elle ne peut vraiment saisir que le pan de son manteau. Donc, des gens le pressaient, non seulement pour le voir, mais pour le toucher, pour entendre sa voix, pour entendre son enseignement, pour l'interroger, pour le prier. C'était des aveugles, c'était des sourds, c'était des boiteux qui venaient de partout, des petits-enfants aussi, des foules accouraient vers lui. Eh bien, cela est un glorieux passé, peut-on dire ? Non. Cela est une leçon. Il a fallu que ces choses existassent sur la terre, mais à titre de leçon pour nous aujourd'hui, parce que Jésus est vivant au siècle des siècles. Il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. C'est lui qui l'affirme. Il tient les clés du séjour des morts. Et de la mort. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts, parce qu'il a fait mourir le péché et la mort. En somme, il a tué le péché et il a tué la mort. Il a tué la force de la puissance de la mort. Alors, conservons l'image des foules venant à lui. Nous aussi, nous pouvons venir à lui, pas de la même façon que venaient les boiteux, les aveugles et les petits-enfants, mais je vous dis, cela est une leçon qui est là, présente dans l'Évangile, pour nous dire, mais c'est à lui qu'il faut aller, nous pouvons aller à lui, il n'est pas nécessaire qu'il soit là physiquement, il ne pouvait pas rester physiquement sur la terre, il l'a dit à ses apôtres, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer l'Esprit. Et si je ne vous envoie pas l'Esprit, la terre ne pourra pas être ensemencée par la parole du salut, par la parole de l'Évangile. Il vous est donc nécessaire, avantageux, que je m'en aille pour que je vous envoie l'autre consolateur, un autre consolateur, un autre paraclet, le Saint-Esprit. Alors, maintenant, par le Saint-Esprit, nous allons à Jésus. Il suffit que nous entendions prêcher la parole, la bonne parole de Jésus, nous allons à lui. Considérons-le, par conséquent, comme le Fils de Dieu, avec notre cœur. Réfléchissons, faisons abstraction de tout ce qui en nous peut venir s'insurger, discuter, marchander cette foi qui désire s'abandonner pourtant. Ça c'est l'homme et c'est l'esprit du malin qui voudrait nous empêcher précisément de nous laisser éclairer pleinement par l'Esprit de Dieu. Alors, considérons le Fils de Dieu avec notre cœur, sachant que nous avons besoin du pardon de Dieu. Ah ça, chers amis, Nous parlons de vie éternelle. Oui, c'est le grand don de Dieu, le don de l'amour de Dieu. Il ne peut pas y avoir de don plus merveilleux que ça. Une vie éternelle, une vie sans souffrance, ni deuil, ni pleurs, rien du tout. Le bonheur inconcevable même, ce bonheur. Il y a quelques-uns qui l'ont effleuré, quelques-uns parmi les chrétiens. Et je suis un peu de ceux-là, je ne veux pas me mettre en avant, mais je dis la vérité. Il m'est arrivé à peut-être trois reprises d'effleurer vraiment ce bonheur qu'on appelle souvent d'un qualificatif le bonheur ineffable. C'est extraordinaire, chers amis, dans un moment de consécration, ou peut-être, je pense, à un moment même de sommeil. Vous savez que Dieu peut se révéler à l'homme pendant son sommeil, parce qu'à ce moment-là, il est un peu tranquille. Hein? Il est un peu à l'abri de toute l'agitation de ses pensées. Nous sommes dans un monde qui nous tient en agitation. Eh bien, alors là, le Seigneur peut nous faire goûter pendant un temps qu'on ne peut pas mesurer. Je ne sais pas, pendant mon sommeil, moi, je l'ai goûté, ce bonheur. Je ne sais pas combien de temps, c'est pas possible. Mais c'est quelque chose d'inouï, d'indescriptible, ce bonheur. Et c'est ce bonheur-là, c'est un échantillon, en quelque sorte, que nous donne l'Esprit de Dieu quand il le veut. Un échantillon. Et nous pouvons, c'est pas la peine de lui demander cet échantillon, mais il peut vous le donner en réponse précisément à votre foi, à votre fidélité, à votre sincérité. Eh bien, ce bonheur extraordinaire, c'est merveilleux. Vivre ce bonheur ineffable, en dehors du temps, en dehors de l'emprise du temps, car Dieu, lui, il n'est pas inclus dans le temps, et la vie éternelle se déroulera de même en dehors du temps. Eh bien, goûter ce bonheur en présence de Dieu, mais c'est quelque chose de formidable, de fantastique. C'est cela que Dieu nous promet. Alors que nous voyons la terre qui est en train de s'effondrer. La terre s'effondre. Et quand on dit la terre, on veut dire la société humaine. Et Ésaïe ne l'a pas caché. La terre chavire comme un homme ivre, tombe et ne se relève plus. Voilà bien ce que dit le chapitre 24 du prophète Ésaïe. Alors, nous avons cela de ce côté. Nous voyons que la terre n'en peut plus. Nous voyons que jamais les difficultés du monde ne seront résolues. C'est pas possible. Ça va au pire. Mais jamais ça ne va au mieux. La Bible nous dit que il y aura un temps, et nous sommes arrivés à ce temps-là, où les hommes diront paix et sûreté. Et à ce moment-là, un mal soudain fondra sur la terre. Ce sera le grand désastre dont a parlé le Seigneur Jésus, ce temps de détresse, ce temps de terrible que va connaître la terre. Et pourquoi va-t-elle la connaître? Quelles sont les raisons? Je ne veux pas les analyser rapidement ce soir, mais j'en dirai une, parce que je sais que cette raison-là, elle est terrible, c'est celle de la corruption, et la corruption, j'entends, la corruption des mœurs. C'est une chose que Dieu ne peut pas laisser aller loin, cela. Il patiente devant toutes sortes de formes d'iniquité, il attend. Quand le comble, certes, est arrivé du temps du peuple d'Israël dans la descendance d'Abraham, alors là, il a mis arrêt. Il a mis arrêt aussi au moment du déluge, à cette corruption. Mais celle des mœurs, et vous, je ne veux pas les nommer autrement, hein, aujourd'hui on emploie des mots beaucoup plus crus, cette corruption des mœurs telle qu'elle se répand maintenant, n'est-ce pas, avec l'incitation qui est maintenant une chose publique, un ministre, je ne fais pas de politique, mais je dis ce qui est, un ministre et qui, dans la publicité pour un certain petite chose qu'on vend en pharmacie, laissez-moi ne pas le nommer, n'est-ce pas? Bon, pour inciter à acheter, à se servir de ça, n'est-ce pas? Eh bien, il a montré, je ne l'ai pas vu, mais je sais, j'ai entendu l'affirmer, le ministre de la Santé publique, de l'heure, il a montré un couple, homme et femme, n'est-ce pas, au moment particulier d'un contact. On lui a dit, j'ai entendu à la radio, j'ai entendu cette émission à la radio, on lui a dit, oui, mais est-ce que c'est pas tout de même, ça va pas un peu loin, ça? Eh bien, non, il faut frapper les gens, il faut... Enfin, alors, qu'est-ce que vous voulez? La jeunesse, on lui dit de se servir de ce petite chose-là, n'est-ce pas? Bon, on lui dit cela, mais en même temps, c'est l'inciter à lui dire, mais faites l'acte, faites-le, n'est-ce pas? Vous avez toute tranquillité avec ce petit appareil-là, n'est-ce pas? Mais faites-le, allez-y. Et on dit cela à la jeunesse. J'ai entendu aussi dans une émission dire ceci, il faut absolument que la jeunesse ne soit frappée par une publicité forte, puissante, démonstrative de l'utilité d'utiliser ce petit instrument. Eh bien, vous savez, n'est-ce pas, Dieu voit cela, Dieu mesure cela. La corruption, cette corruption des mœurs, c'est quelque chose que Dieu ne peut pas laisser aller loin. Ce n'est pas possible. Donc cela nous montre bien que la fin est proche. Et la fin, c'est le retour du Seigneur Jésus, sans laquelle il n'y aurait absolument pas de continuation possible de vie sur la terre. Ce serait une sauce. Tout est en train d'aller maintenant vers le néant. Mais le Seigneur va intervenir prochainement, et l'intervention, c'est la venue du Seigneur, mais qui sera précédée par un temps de détresse. Et si nous comprenons bien l'Apocalypse, ce temps de détresse durerait pour le moins 3 ans et demi. Mais il est proche, et le Seigneur l'a dit, le temps de la détresse viendra. Alors, chers amis, je reprends la parole du Seigneur, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, pour échapper à tout cela déjà. Vous me direz, ce n'est peut-être pas la pensée la plus noble que de vouloir échapper à l'effondrement d'une civilisation sur toute la terre, sur la terre entière, à la fin d'un monde. Mais si, il faut tout de même vouloir cela. N'oublions pas que le Seigneur Jésus nous a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, parce qu'il faut aimer les autres. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme toi-même. Il faut que tu t'aimes toi-même. Pas en égoïste, naturellement, mais il faut que tu t'aimes en saisissant toi-même la vie éternelle. Si tu l'as saisie, alors là, tu pourras aimer ton prochain. Par conséquent, le temps est proche. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Le Seigneur nous convie, nous appelle par sa parole. Elle est aussi forte, aussi, vous pourrez presque dire qu'elle est plus puissante encore qu'au premier jour, parce que nous atteignons les temps de la fin, le temps de la fin. Jusqu'ici, nous avons fait des choix. Nous avons voulu, nous avons demandé, nous avons obtenu ce que nous avons maintenant. Nous sommes pour une bonne part, vous savez, responsables de notre vie maintenant. Vous allez me dire, bon, ben, c'est pas si mauvais que ça, ce qu'il me faut à peu près, j'ai mes ressources, j'ai des amis, de la famille, tout ça, ça n'est pas si mauvais, mais consultez-vous bien, consultez-vous intérieurement et vous verrez qu'il manque beaucoup de choses à ce prétendu bonheur, un bonheur précaire. En tout cas, nous sommes responsables de la vie que nous menons et les mauvaises choses aussi qui sont à goûter dans le fil de nos jours, nous en sommes responsables. Notre vie dépend de nos choix. Et ça, c'est la grande liberté que Dieu nous a laissée. Marie, sœur de Lazare, avait choisi la bonne part, nous dit l'Évangile. Elle avait choisi la bonne part de se mettre aux pieds du Maître, du Seigneur Jésus, pour l'écouter, entendre sa parole, pour la boire, sa parole, pour cette parole l'intérioriser. Parce que la foi fait cela, elle intériorise la parole de Dieu. Et c'est cette bonne part que Jésus nous offre en nous demandant de venir à lui. Cette bonne part, c'est donc de venir à lui pour avoir la vie maintenant. Comme c'est simple l'Évangile. Venir à Jésus, nous l'avons dit et je le répète, considérez ce qu'il est à travers les Évangiles. Il n'y a pas besoin de faire de longues études pour cela. Peut-être même l'écoute d'un seul message peut le permettre. Beaucoup se sont convertis vraiment et ont trouvé cette relation avec Jésus après un seul message entendu. Donc, par conséquent, considérez ce qu'il est, le Fils de Dieu. Considérez ce qu'il a fait sur la terre, comment il a vécu. C'est vite fait, cela. Considérez qu'il est vraiment le Dieu venu manifester en chair, comme dit Jean, manifester en nature humaine sur la terre, et que maintenant, ayant porté les péchés du monde sur la croix, étant mort à la place des hommes, maintenant il est ressuscité et il vit au siècle des siècles, et il nous dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il nous convie, chers amis. Retenons cela, prenons notre responsabilité, faisons notre choix, mais faisons-le vite et faisons-le bien. Amen. Amen. Seigneur Jésus, Seigneur, nous bénissons ton nom. Et c'est en ton nom aussi que nous bénissons notre Père céleste. Nous venons vers toi, ô notre Père, pour te demander, Seigneur, de manifester par ton esprit tout ton amour, toute ta bonté, toute ta clémence, de façon à permettre à tous ceux qui ne sont pas encore dans cette relation merveilleuse avec ton bien-aimé Fils Jésus, qu'il puisse y entrer, qu'il puisse venir à lui, et qu'il vienne à lui sans réticence, en s'abandonnant pleinement à lui, sachant que tout est bon dans cet abandon.